C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Des collages immédiats pour les matinales de Bartas.
Sur le 107FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 23 août, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons par téléphone dans un instant avec Lydie du Jardin de Cocagne-Lozère. La structure fête ses 10 ans et s'offre pour l'occasion un festival, ce sera dans une dizaine de jours, on en parle avec elle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, il y a un peu plus d'un mois, c'était Eux, c'est nous, normalement organisé à Vébron par l'asso La Redingote, mais cette fois c'était ici à Florac, en partenariat avec les hebdos de l'été, puisque la redingote se reconstruit, ce qui n'a pas empêché Léo d'être parti à la rencontre des membres du réseau Éducation sans frontières. On écoutera ça tout à l'heure. Il y aura la musique comme d'hab et on y va pour l'édito. Vous êtes bien sur Bartas, c'est parti.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là,
ce n'est que l'édito des Bartas. Mais alors celle-là, je m'y attendais pas, mais pas du tout. Dans mes pérégrinations de lire la presse chaque matin, diverses et variées, voilà que je tombe sur une photo, un char avec une banderole « Mort aux écolos ». Alors je recoupe en me disant « c'est une blague, c'est un montage », mais je revois cette photo dans plusieurs journaux. Elle date de dimanche, à la fête de Saint-Bernard dans le village de Pérol-sur-Vézère, en Corrèze. Et le char en question est conduit par le maire de la commune, Alain Fonfred. Alors lui, il prend de l'humour. N'empêche que c'est le premier magistrat d'une commune quand même, cela a du sens. Et ce n'est pas drôle, sachant qu'il y a déjà eu des tags morts aux écolos un peu partout en France, ça banalise un discours de violence envers les écolos. À l'heure où des élus se plaignent d'être de plus en plus confrontés à la violence, s'ils remettent de l'huile sur le feu, franchement, on n'est pas rendu. De plus, c'est la canicule et le feu, bah, c'est vraiment dangereux. Vous êtes bien sûr Radio Barthas et nous sommes ce matin pour les 10 ans du Jardin de Cocagne Lozère avec Lydie, bonjour.
Bonjour.
Le Jardin de Cocagne, c'est à Marvejols, plus précisément à Palerce. Alors, vous faites la fête ce week-end, on va en parler, mais commençons simplement. C'est quoi le réseau Jardin de Cocagne? Précisons que c'est un réseau qui existe à l'échelle nationale.
Alors tout à fait, le Jardin de Cocagne c'est un réseau national, et le réseau Cocagne est un réseau national. Il y a une centaine d'exploitations en bio qui ont toute la particularité d'être des chantiers d'insertion par l'activité économique. Donc l'objectif c'est de permettre à des femmes et des hommes de repartir vers l'emploi.
Alors vous existez depuis 2013, hein, concrètement, qui peut bénéficier de la structure, sachant que, si j'ai bien compris, chaque salarié est embauché pour une durée maximum de 2 ans, c'est ça?
Exactement. La particularité des contrats insertion, c'est que ce sont des contrats de 6 mois, ce sont des CDD insertion, et donc c'est bien des contrats de travail. Pour pouvoir venir travailler chez nous, il faut être à jour de tous ces papiers de travail, et tout un chacun qui est éligible à l'insertion peut venir travailler au jardin. Il y a une plateforme et n'importe quel travailleur social peut accompagner pour l'inscription sur cette plateforme et accéder au jardin.
Est-ce que ça a été facile de créer la structure il y a 10 ans comme ça?
Non. Non, parce que c'est quelque chose qui bouscule les idées reçues et les préconçues. Et l'objectif de cette structure, c'est d'apporter une aide concrète aux personnes.
Ouais. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident. Alors combien de personnes ça représente aujourd'hui, l'équipe encadrante et le nombre de salariés que vous avez?
Alors aujourd'hui, on est 7 salariés permanents et on a 28 personnes en parcours d'insertion.
Ah oui, quand même.
Voilà.
Parce que quand ça a démarré il y a 10 ans, je suppose que c'était quoi, 8, 10 plutôt?
Oui, alors la toute première équipe, je crois qu'ils étaient 6 à l'époque.
Ah oui, donc belle évolution.
6 salariés en parcours, ouais, tout à fait.
En termes de terrain et de culture, qu'on se rende compte, c'est quoi la taille et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce jardin?
Alors, on a une exploitation qui fait un peu plus de 2 hectares, on a presque 4000 mètres carrés de serre, et on trouve tous les légumes de saison bio, locaux, et puis solidaires par excellence. Donc là, en ce moment, on a des tomates, des aubergines, des concombres, des melons. Là, s'il continue à faire chaud, les pastèques vont pouvoir arriver. Il y a tous les légumes de saison, des carottes, tous les légumes de saison.
Et en termes de distribution, puisque vous favorisez le bio, est-ce que la distribution se fait en local? Comment ça se passe?
Alors oui, tout à fait. Nous, on travaille en bio, et au niveau de la distribution, on a la chance d'avoir des commerçants partenaires qui sont point de dépôt pour nos paniers, puisque nous vendons à des adhérents qui commandent toutes les semaines, et chaque semaine, nous livrons les paniers sur 5 points de dépôt et le jardin. Donc en point de dépôt, nous avons le panier de Maya à Marvejols, le magasin Casino également à Marvejols, et ensuite le magasin Astro à Chamac, la maison Clavel à la Canourgue et la Biocoop à Mende.
Comment il est financé ce jardin?
Alors les financements, on pallie une mission d'État, donc on a une partie de financement d'État pour les salaires des personnes en parcours d'insertion. On a le soutien du conseil départemental également. Et après, on va chercher des financements privés et puis on vend nos légumes.
Oui, c'est sûr. Ça ramène quand même un petit peu d'argent. Est-ce que vous suivez encore, après leur départ, le parcours des anciens bénéficiaires du dispositif? Est-ce qu'ils ou elles continuent dans le maraîchage ou bien changent de voie?
Alors, on n'est absolument pas des fournisseurs de main-d'œuvre en maraîchage. Et on n'est pas un centre de formation de maraîchers. L'appétence pour le maraîchage n'est pas un prérequis pour venir travailler chez nous. Et nous, on ne forme pas des maraîchers, on n'est pas un centre de formation. Par contre, voilà, il y en a très très peu qui poursuivent dans le maraîchage à la sortie du contrat. Je crois qu'il y en a eu sur les 10 ans, je crois qu'il y en a eu un ou deux de mémoire. Alors, la directrice le confirmerait, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais après, les salariés qui sont passés par le jardin, ben, ceux qui veulent nous donner des infos et des nouvelles le font. Ceux qui ne le veulent pas, le font pas. On ne force à rien, mais on est toujours là s'il y a des besoins. On ne peut pas lâcher les gens comme ça quand on les a accompagnés sur toute leur vie pendant des fois 2 ans. Et certaines personnes, on est même allé plus loin que ça puisqu'on a eu des dérogations. Et voilà, il y en a pour qui on a des nouvelles très régulièrement et on en est ravis.
C'est ça, ça crée des liens et c'est surtout, si j'ai bien compris, vraiment remettre la main à la pâte quoi, après avoir perdu pied dans le monde du travail.
Ben, c'est la mise en œuvre du proverbe indien « Je te donne pas du poisson, je t'apprends à pêcher
». Super.
Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que nous, on n'a pas une baguette magique. On n'a pas une baguette magique. Par contre, on permet aux personnes de régler les problèmes qui empêchent de pouvoir avancer sereinement dans la vie. Et l'objectif, il est là. Et pour faire ce travail-là, il y a de l'accompagnement socio-professionnel, il y a de l'encadrement avec les maraîchères aujourd'hui professionnelles aussi, et puis il y a l'accompagnement administratif également. Et on a coutume de dire qu'on plaque pas un dispositif à des personnes, on fait de la dentelle autour de chaque salarié. Et parce que chaque salarié est différent et chaque problématique est différente, et donc c'est à nous de nous adapter et de faire en sorte que ces problématiques se règlent, se lèvent pour pouvoir avancer.
Alors, disons, c'est beau. Est-ce que toi, à titre personnel, mais aussi est-ce que dans la structure, vous êtes confiant pour les 10 ans à venir ?
Alors oui, on est confiant. Moi, je le suis également, et toute l'équipe est confiante aussi. Maintenant, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas besoin de nous. Hein. C'est un peu comme les Restos du Cœur. Hein. S'il n'y avait pas besoin de nous, ça serait mieux. Mais il y a encore besoin de nous et il y aura encore besoin de nous pour les années à venir. Donc pour les 10 ans à venir, oui, on est confiante. Sinon, on ne serait plus là.
Allez, à l'occasion de ces 10 ans, justement, vous vous offrez un festival. On y va. Et ça commence tranquillement le jeudi 31 août à partir de 10h.
Voilà, le jeudi 31 août à partir de 10h avec notre petit marché comme tous les jeudis matins au jardin, puisque c'est aussi un moyen pour les adhérents actuels ou futurs de découvrir nos légumes et nos produits transformés. Donc petit marché un petit peu, voilà, on va l'agrémenter un petit peu ce petit marché quand même. Il y a des petites surprises qui attendent les adhérents qui vont pouvoir se présenter ou les non-adhérents qui veulent découvrir aussi. Et puis des visites de l'exploitation sur réservation préalable sans aucun problème. Le vendredi, une belle journée qui nous attend, le 1er septembre, puisqu'on organise la journée territoriale de l'alimentation. Et là, on fait un vrai boulot avec toute l'équipe du réseau national pour pouvoir montrer comment un chantier d'insertion par l'activité économique avec du maraîchage bio a toute sa place dans la ruralité de demain et notamment dans l'aide alimentaire. Voilà, donc ça va être une belle journée là.
Ça c'est sûr, avec pas mal de conférences justement et de réflexions autour du local et de l'insertion par l'activité économique.
Oui, tout à fait. Ça va être. On va faire chauffer les neurones là, puisque voilà, l'idée c'est des tables rondes et des conférences, mais quelque chose de très participatif. Hein. C'est pas l'objectif, on n'a pas monté un amphithéâtre pour que les gens viennent écouter un conférencier. Non, c'est pas l'idée. Au contraire, là, on veut quelque chose de très participatif. Mais on a des beaux intervenants, puisqu'on a le directeur du réseau national, Julien Ada, qui vient dans le plus petit jardin de France. Nous, on est très fiers de pouvoir l'accueillir. c'est une belle reconnaissance. Mais on aura également Monsieur Aiguin, Robert Aiguin, qui est vice-président du conseil départemental de la Lozère, et qui est en charge notamment de la commission économie circulaire, agriculture, accompagnement des filières agricoles, qui va venir aussi présenter tout le travail qui est démarré par le projet alimentaire territorial, le fameux PAT. Ouais. On aura également Pauline Scherrer, qui est sociologue et coordinatrice, et qui va venir travailler, enfin qui va venir faire réfléchir les gens sur l'accessibilité alimentaire en milieu rural. On aura également la directrice du LERIS de Montpellier sur les problématiques rurales, agricoles et sociales. Donc on va peut-être parler de la sécurité sociale alimentaire, notamment.
Gros projet, ça serait bien que ça arrive, c'est sûr, ça fait des années qu'on en parle.
Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, on attend encore d'autres intervenants qui voilà, qui doivent nous confirmer, mais on aura certainement Madame Brémond, de la présidente de la communauté de communes de Gévaudan aussi, et qui est également maire de Marvejols, puisque voilà, on est très très en lien, nous, avec avec le bassin de vie, et on travaille beaucoup avec le bassin de vie. Et au niveau de l'aide alimentaire, on travaille avec toutes les structures de l'aide alimentaire, notamment le Secours Populaire Français. La Croix-Rouge également demande notamment, donc c'est des choses qui nous, nous tiennent à cœur dans notre quotidien, et si on arrivait à faire en sorte que ça se passe mieux, ça serait super.
Ouais, c'est sûr, les valeurs de partage, en tout cas, on sent qu'elles sont portées par, par la structure. Et puis, bah, on arrive sur le samedi, hein, tranquillement, avec évidemment le clou de la journée, puisque ce sera le concert des Frères Jacquard. Mais commençons par la journée, quel est le programme ?
Alors ça va être la fête au jardin le samedi, c'est vraiment la journée festive de ce petit festival. Alors là, on va tenir, voilà, on va vendre nos légumes toute la journée, petit marché exceptionnel, là pour le coup, des légumes, des plants, nos produits transformés, peut-être quelques nichoirs à oiseaux aussi, des hôtels à insectes, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est on est en train de préparer un peu de tous les côtés, mais on fait également, ben, comme on l'avait déjà fait l'année dernière et ça avait bien fonctionné, donc on renouvelle l'expérience, on propose notre vie de grenier avec voilà des choses qu'on a reçues de droite et de gauche et qui ne font usage à personne, et du coup on fait le vide grenier du jardin. Donc voilà, je précise que c'est un vide grenier qui n'est pas ouvert aux exposants extérieurs, c'est vraiment le jardin qui fait son vide grenier, puisque j'ai régulièrement la demande, donc je précise. Mais on a également les vanniers de Lozère qui viennent montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. C'est des partenaires de la première heure, et on a tenu à ce qu'ils soient là pour les 10 ans. Ils ont accepté, et on les remercie d'être encore avec nous pour ces 10 ans. Donc toute la journée, ils vont montrer aussi tout le travail autour de la vannerie. Et puis on a démarré des projets avec l'école de vannerie, ils sont partenaires également. Donc voilà, il y a des belles choses autour de la vannerie qui se font. On aura très probablement des anciens salariés qui vont venir avec leur artisanat, voilà, qui vont venir exposer aussi ce qu'ils sont capables de faire et de proposer, et pour montrer que voilà, le jardin ne forme pas que des maraîchers, loin de là.
Comme on le disait tout à l'heure.
Voilà, comme on le disait tout à l'heure. Et puis toute la journée, ben voilà, il y aura moyen de se restaurer et de s'hydrater, parce qu'avec les chaleurs qui fait, on espère qu'il va faire beau,
oui, ça
un peu
bien,
moins chaud, ça serait pas mal, hein, si on peut passer commande, bon. On essaye.
Il y aura aussi des animations à la découverte de la nature.
Oui, tout à fait, parce que on tient à cette nature, à cette biodiversité. C'est pour ça qu'on travaille en bio, et on est vraiment très très sensible à ça. Et on aura la chance d'avoir Alexandre Burtin, avec qui a sa structure Un Rêve de Balbu, et qui va proposer des animations autour du jardin pour vraiment découvrir la nature. sous plusieurs formes, et donc ça va être, il va proposer des balades le matin et l'après-midi, ce sera des choses différentes, donc voilà, il y a moyen de rester toute la journée. Mmh. On va avoir également une compagnie de clowns, la compagnie Tête d'Ampoule avec les Thérèse, qui vont venir présenter un petit spectacle qui s'appelle, enfin petit spectacle, non, un spectacle tout court d'ailleurs, qui s'appelle Ondine ou Solo pour une clown et un sac poubelle.
Tout un programme.
Voilà, c'est un vaste programme. Et puis en fin de journée, ils vont nous faire la fin de journée avec une soirée Zik and Soup avant d'attendre les jacquards. Donc voilà, je dévoile pas tout, mais il y a une histoire de soupe et une histoire de mobilette. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il faudra venir parce qu'il y a un lien entre les deux.
Et
si c'est possible.
Et toute la journée, il y aura une vente de billets de tombola, ce sera bien ça.
Exactement, on a pour célébrer ces 10 ans, il y a la tombola du jardin, il y a des jolis lots à gagner avec notamment une belle cafetière broyeur expresso là en premier lot, c'est une jolie machine, elle est belle comme tout. Et puis des plein d'autres lots, il y a des paniers du jardin à gagner, il y a un beau panier garni en second lot. Voilà, il y a vraiment des belles choses. Et la petite chose que je voulais préciser, c'est qu'au niveau de la buvette, on a fait le choix de partir sur des produits locaux. Mmh. En buvette, puisqu'on va proposer les sirops préparés par l'équipe du jardin, on va proposer des jus de fruits de la ferme d'Hérieux, de Barjac notamment. Voilà, l'objectif c'est vraiment de montrer qu'on peut faire des belles journées et en faisant travailler le tissu local. Et le soir, on va avoir la brasserie de Rocle qui va venir aussi pour la buvette en fin de journée nous rejoindre. Donc voilà, toujours sur du local.
C'est ça qui est beau. Et puis ils étaient locaux, maintenant ils ont une carrière nationale et presque internationale puisque les frères Jacquard seront là. Donc précisons que donc ça, ce sera la seule partie payante du week-end.
Oui.
Évidemment, donc pour réserver, ce sera sur Hello Asso, c'est ça?
Voilà, tout à fait, sur Hello Asso, ou alors un simple SMS au 07 84 83 79 74, c'est mon numéro professionnel, je réponds, il n'y a pas de souci, un SMS ou un appel, ou par mail, jardincocagne48@gmail.com, jardin au singulier, on peut réserver si on ne trouve pas sur Hello Asso, et sur Hello Asso, il faut chercher la billetterie du Jardin Cocagne Lozère, et normalement on arrive à la trouver. Mais il y a des affiches un petit peu partout, il y a la page Facebook avec le lien, sur les affiches il y a le QR code pour pouvoir réserver. Mm-hmm. Donc petit à petit, normalement, en cherchant bien, la page Facebook elle tourne beaucoup, donc c'est assez facile de réserver.
Et évidemment, auditeurs, auditrices, je mets les liens sur notre site dans un instant. Les 10 ans du Jardin de Cocagne, ça a pas l'air, c'est à côté de Marvejol. Toutes les infos, les réseaux, je mets les liens dans un instant, je viens de le dire. Merci beaucoup Lydie.
Merci à vous et puis à bientôt.
Je vous souhaite à toute l'équipe un joyeux anniversaire, un bon festival et à très bientôt.
C'est très gentil.
Allez, on se retrouve dans un instant, mais on écoute d'abord les frères Jacquard. C'est parti.
Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. S'oublier qui s'enfuit déjà. Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas, ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour
passerai, je me cacherai là, à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras.
Léo, à l'occasion de l'événement Eux c'est nous, qui pour plusieurs raisons cette année avait lieu à Florac, a eu l'occasion de rencontrer Patricia, Céleste et Pierre du réseau Éducation sans frontières. On écoute ça tout de suite.
Bonjour, moi je suis Céleste, je suis depuis assez peu de temps à RESF, donc c'est le réseau Éducation sans frontières. Et principalement en ce moment je me forme à une formation juridique qui est proposée par une personne du réseau qui est avec nous et pour essayer en fait un petit peu d'apprendre les différentes façons dont on peut essayer d'aider les gens qui sont réfugiés ici sur le territoire, qui sont exilés.
Alors bonjour, moi c'est Patricia, donc je suis aussi à RESF Lozère alors depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vrai qu'effectivement, on va dire que j'ai certaines compétences juridiques, pas toutes parce que ça change tout le temps, et que c'est bien de transmettre ces compétences-là justement aux autres.
Bonjour, moi je suis Pierre. Alors moi je connais RESF depuis je ne sais pas combien, 7 ou 8 ans peut-être, 7, 8, 10 ans peut-être, et j'ai été amené à procurer des promesses d'embauche, déjà du fait que je connais déjà les gens par... J'ai été pendant 8 ans responsable des Restos du Cœur de Florac, ce qui m'a amené à connaître la plupart des gens qui arrivent, des étrangers qui arrivent, qui sont en situation souvent de... même avec OQTF et qui cherchent une promesse d'embauche. Et de par mon passé, pendant 27 ans, j'ai travaillé dans les matériaux de construction, donc je connais les entreprises du secteur de Florac, ce qui m'amène à pouvoir présenter les demandeurs d'emploi aux entreprises.
Oui, je voulais rajouter que le réseau Éducation sans frontières, donc il agit sur Florac, il aide des personnes sur Florac, mais sur toute la Lozère en fait. Et qu'on fait par exemple sur Mende des permanences où on accueille les gens qui n'ont pas de titre de séjour et qui souhaitent en avoir un.
Vous avez un bâtiment pour ça ou vous êtes en collaboration avec d'autres associations pour accueillir les gens?
Alors on accueille les gens dans le local du Parti communiste qui nous prête son local le mercredi après-midi pour faire les permanences. Voilà. Et après, il y a des associations qui côtoient ou qui hébergent des personnes qui n'ont pas de titre de séjour, donc des CHRS, que ce soit à Florac, à Quoi-de-Neuf, à Mende, La Traverse, à Saint-Chély ou Marvejols, c'est l'association La Perme.
Bon, pour contextualiser un peu, aujourd'hui on est à un événement à Florac qui s'appelle Eux c'est nous. C'est quoi votre lien avec cet événement du coup aujourd'hui?
En fait, le lien avec l'événement, c'est que c'est une association qui organise, qui s'appelle La Redingote, qui est basée sur Vébron, et qui tous les ans organise une soirée Eux c'est nous, et dont l'argent est reversé à une association qui s'occupe des personnes exilées. Donc là, ça va être l'association qui soutient le réseau Éducation sans frontières, mais il y a eu des associations d'ailleurs à Calais ou dans le Gard qui ont été soutenues aussi.
Et ce qu'on fait là aujourd'hui pour RESF, c'est qu'on présente nos activités, on discute avec les gens qui arrivent, on a un stand à l'entrée de la soirée et on présente un petit peu tout ce que on fait, toutes les différentes activités du réseau, puisque c'est vraiment très varié et très et c'est inscrit en fait localement quoi.
Là ce soir vous êtes trois devant moi, mais du coup RESF en Lozère c'est à peu près combien de personnes? Et est-ce que vous vous rencontrez de temps en temps, vous faites des grandes réunions pour faire un point, un bilan?
Moi je vais parler donc pour la Lozère globalement, après ce serait bien que quelqu'un explique sur Florac, mais sur la Lozère oui on se rencontre, oui on fait des réunions parce qu'il y a des gens effectivement de toute la Lozère globalement. Et on a une liste de discussions aussi où on envoie des mails pour informer les gens quand il se passe quelque chose quelque part. Alors combien de personnes, c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'aux réunions des fois on peut être 10, des fois on peut être 20 et qu'après si on fait une manifestation on peut être 400. Donc vu que c'est un réseau, que c'est pas une association, c'est difficile de compter les gens.
En ce qui concerne Florac, on a un groupe un peu plus restreint et on se réunit de temps en temps pour discuter des gens ici qui sont en difficulté, parfois pour faire organiser des événements, des soirées de soutien, ou même pour permettre aux gens ici qui connaissent pas forcément, en fait, des personnes étrangères qui sont arrivées de les rencontrer autour d'un repas, autour d'une soirée, comme ce soir, même là, c'est pas nous, mais je veux dire, voilà. Et aussi, du coup, tisser du lien. Il y a des personnes qui ont organisé des ateliers de marionnettes, par exemple. Il y a des personnes vice-versa, enfin, dans l'autre sens aussi, des personnes étrangères, avant d'obtenir leur titre de séjour, qui se sont engagées dans des tas d'associations, qui ont proposé des cours de danse, qui proposent des repas, parfois, au CAF associatif. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui se passent plus localement.
Parce que j'aime bien les chiffres du coup. Ici en Lozère, chaque année, vous êtes approché par combien de personnes pour en demande d'aide à peu près, pas des chiffres exacts, mais à peu près
Moi je sais pas dire sur l'année parce qu'en fait il y a des gens qui attendent très longtemps pour avoir des papiers, des gens qui arrivent. Ce que je peux dire par contre, c'est que quand on fait un point sur les situations, par exemple pour envoyer aux gens, il y a une trentaine, soit de personnes, soit de familles qui demandent d'être accompagnées. Voilà. Mais après, sur l'année, et puis c'est très fluctuant, ça a augmenté effectivement par rapport au début du réseau où on suivait 3-4 familles à la fois. On en suit une trentaine. Voilà.
Pour certaines personnes, la demande de régularisation peut durer quelques mois ou plusieurs années, comme pour certains qui ont été régularisés récemment. On s'en réjouit là, ce mois-ci on a eu deux titres de séjour accordés à des gens qui les attendaient depuis au moins 2 ou 3 ans. Oui,
une famille qui attendait depuis six ans
même. Oui,
une des choses que fait le réseau aussi, c'est de permettre à la préfecture, à travers des rencontres, du coup des réunions à peu près tous les 6 mois avec le préfet et des membres de la préfecture, de comprendre un peu mieux, c'est-à-dire de rendre, que ça soit plus des cas et des dossiers, mais de rendre beaucoup plus proche en fait chacune de ces personnes, de comprendre quel a été leur parcours, qui sont ces personnes qui sont. Donc je trouve que la soirée Eux c'est nous, ça c'est quand même un super nom pour ce soir.
Ce que je me demandais, c'est vous faites en Lozère que de la régularisation ou il y a d'autres types d'aides qui peuvent être apportées aux gens, un suivi sur plus long terme? Je sais pas, parce que c'est réseau Éducation sans frontières dans le nom. Je me dis où se place l'éducation, où se place
Là, il faut resituer RESF dans le temps. Des RESF, il y en a dans tous les départements français. Et ils ont été créés à une époque où la police rentrait dans les écoles prendre des enfants qui devaient être expulsés avec leurs parents. Voilà. Alors, le nom est resté. Quand on est dans une ville, il y a des tas d'associations qui défendent, par exemple, les travailleurs sans papier, les conjoints de Français avec les amoureux en public. Voilà. Ici en Lozère, il y a RESF. Donc RESF dépend en fait toutes les personnes, même si elles n'ont pas d'enfants. Alors c'est vrai que l'accompagnement, l'idée c'est quand même d'éviter que des gens qui veulent rester en France soient expulsés. Et après, qu'ils puissent obtenir un titre de séjour pour vivre et travailler en France comme ils ont choisi de le faire. Après, il y a d'autres actions, mais c'est à chacun, selon ses compétences, je dirais, de les mettre en place. Donc il peut y avoir des personnes qui vont participer à de l'aide scolaire. Et il peut y avoir
des cours de FLE, par exemple, de français langue étrangère.
Alors, RESF, pas trop. Mais il y a effectivement d'autres actions, comme ce qu'on disait par exemple, ce qui se passe sur Florac, ou des personnes qui vont faire un atelier cuisine parce qu'il y a une fête, ou des personnes qui vont proposer des activités, mais c'est chacun qui organise. Voilà.
Du coup, c'est un réseau, c'est pas une association ni rien, donc j'imagine qu'il ne peut pas y avoir de gens salariés, vous êtes toutes bénévoles. Est-ce que ça peut avoir un problème à un moment qu'il n'y ait pas assez de gens du coup bénévoles, que les gens n'ont plus assez de temps? Est-ce qu'il peut y avoir des années où du coup il y a un trou de membres et c'est compliqué d'arriver à suivre, gérer les choses?
Ça peut arriver comme à tous les regroupements de personnes, mais même en association, ça arrive qu'à un moment il n'y ait plus assez de monde. Donc je dirais que ce n'est pas typique au fonctionnement du réseau, quoi, pour moi.
Toutes les associations sont confrontées à ce problème de recrutement de bénévoles.
Exactement. Et même les entreprises sont confrontées à des problèmes de recrutement. Et d'ailleurs, c'est justement un truc assez important pour le réseau, quoi. Mais, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup d'employeurs en Lozère, notamment dans les secteurs de la restauration, du bâtiment, du soin, enfin de l'aide à la personne, qui sont... très en recherche, vraiment parfois en grande difficulté pour recruter des salariés. C'est alors que nous, enfin paradoxalement quoi, RESF, on rencontre énormément de monde qui a envie de travailler et qui ne peut pas parce que juste ils sont pas en situation régulière et ils peuvent pas avoir de contrat de travail. Donc c'est sûr qu'on essaye de, enfin Pierre notamment, mais de mettre en lien en fait les entreprises avec les personnes qui sont arrivées, les étrangers.
Vous êtes là depuis plus ou moins longtemps dans le réseau. Est-ce qu'il y a des cas qui vous ont marqué ou qui vous marquent encore?
Je pense particulièrement à un jeune qui était en voie d'expulsion, qui a été en galère pendant 5 ans et qui a pu être finalement régularisé avec une promesse d'embauche. Mais qui était sur le point d'être expulsé. Il a été pris en au centre de rétention de Toulouse. Hein, et c'était pendant la période de Covid, il a refusé le test PCR, ce qui l'a sauvé, ce qui l'a empêché de prendre l'avion le lendemain. Et il est revenu et on a pu arriver à lui procurer une promesse d'embauche qui a permis de le régulariser. Et depuis, il est...
Oui, c'est vrai que c'est un jeune qui avait une histoire particulièrement difficile, qui venait d'un pays africain. Il y a eu un voyage très très long et très dur en passant par alors c'est Outamouilia, je crois, qui a essayé de franchir les barbelés. Il a encore sur les mains les marques des barbelés. Enfin voilà, c'est des gens qui ont des histoires extrêmement difficiles. Alors, c'est vrai que moi il y a des histoires aussi qui m'ont touchée. Je repense à une famille qui était tzigane, enfin d'origine rome, et qui avait deux enfants. Ils ont été à Florac assez longtemps, et ils étaient tellement dans l'angoisse, parce qu'ils ont attendu plusieurs années, que leur fils s'est arrêté de parler. Pendant un an et demi, cet enfant, il n'a pas parlé. Et il a reparlé le jour où ses parents ont eu des papiers. Voilà, c'est aussi de voir la souffrance que ça génère chez les adultes, et ça se transmet aussi aux enfants. Voilà, oui, il y a toujours des situations marquantes.
Bah, non, c'est toi qui peux le raconter, mais l'exemple de la pizza, tu sais, d'une famille qui vient d'être régularisée et dont la petite ne mangeait pas.
Oui, c'est vrai que là, elle ne mangeait pas. Et que là, on a été manger ensemble dans une pizzeria. Elle a 4 ans, elle est capable de manger une pizza adulte toute seule. Enfin, voilà, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a des effets sur les enfants qui sont quand même... Donc ça, c'est aussi bien quand on peut justement intervenir à la préfecture et qu'on a un préfet ou une préfète qui écoute, de pouvoir raconter un peu, les rendre, oui, humains, comme tu disais tout à l'heure, d'expliquer comment ça se passe pour eux.
Que je trouve... Enfin, il n'y en a pas qu'un. Je crois que tous les cas qui ont été régularisés depuis que je connais le réseau sont tous hyper marquants et emplissent de joie, quoi. Et inversement aussi, ben, tu disais les cas négatifs, c'est-à-dire il y a eu l'expulsion de Chouaïeb l'année dernière, et c'était enfin, c'est hyper dur, quoi. C'est assez traumatisant à chaque fois, en fait. Enfin, voilà.
Ça a toujours été difficile, la démarche de régularisation de personnes. Et comment ça fonctionne aujourd'hui ?
C'est certain que les politiques gouvernementales globales ne vont pas dans le sens d'une aide aux sans-papiers, enfin, d'une aide à la régularisation, d'une aide à l'intégration en fait, de personnes qui voudraient rester, travailler, vivre sur le territoire français. Patricia disait tout à l'heure que la France, c'est quand même le pays d'Europe qui distribue le plus d'obligations de quitter le territoire. Donc ça en dit long sur où on en est aujourd'hui, quoi. Après, il y a aussi des tas de choses, par exemple la procédure Dublin, donc comment ça s'appelle la procédure Dublin pour les demandes d'asile, qui facilite absolument pas le fait qu'on puisse demander l'asile en France, puisque c'est l'endroit où on a pris la première fois les empreintes d'une personne qui vient d'arriver sur le territoire. C'est dans ce pays-là que la demande d'asile doit être effectuée. Donc ça veut dire que les pays aux frontières, comme l'Italie, comme la Bulgarie, la Grèce, se retrouvent saturés de demandeurs d'asile, alors qu'ils ne peuvent pas demander l'asile dans d'autres pays dans lesquels ce serait peut-être plus facile. Il y a tous ces types de politiques plus larges qui font que même si localement on peut dialoguer avec la préfecture, on peut expliquer cas par cas, comprendre un petit peu quelle a été l'histoire de chaque personne, ça facilite pas du tout le travail d'RESF en fait, et l'intégration de ces personnes, enfin, qui sont avant tout des humains qui veulent rester, vivre ici.
Oui, pour compléter, moi je voudrais parler des dernières circulaires qu'ont reçues les préfets, où on leur demande effectivement de plus expulser, et plus particulièrement ceux que le gouvernement appelle des délinquants, ceux qui ont eu des problèmes avec la justice, alors qu'en fait on pousse les gens à avoir des problèmes avec la justice quand on les maintient dans des situations précaires aussi longtemps. Et moi, nous, c'est ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui va par exemple en prison parce qu'il a commis une infraction, une fois qu'il a entre guillemets payé pour ce qu'il avait fait, logiquement, il ressort et il peut avoir une vie nouvelle. Et voilà. Là, il y a des gens qui sont expulsés après avoir fait de la prison, par exemple. En plus, on les renvoie chez eux. Alors ça sépare des familles, ça casse des vies pour des gens qui pouvaient vivre ici depuis déjà pas mal de temps.
Oui, puis c'est aussi parfois... Enfin, voilà, on a l'impression que c'est tout sous le même parapluie, c'est-à-dire un problème avec la justice. Mais parfois, c'est des choses aussi ridicules que quelqu'un qui a... je cite un exemple qui existe vraiment, une personne qui avait l'intention de voler de l'essence et qui a donc fait des tours sous les yeux des caméras avec des bidons vides et qui s'est fait arrêter avec ces bidons vides et qui a avoué la vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, il avait l'intention de voler, il ne l'a finalement pas fait. Et bien, cette personne-là a un problème avec la justice et fait partie des gens qui risquent en fait de subir cette double peine, alors que c'est insensé. Donc c'est vraiment très imprécis, cette histoire de la délinquance, c'est quand même un peu scandaleux, quoi.
J'avais une question un peu communication. Je connaissais les initiales RESF, l'acronyme RESF, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était, à quoi ça servait. Du coup, je me demandais, c'est peut-être moi qui me renseigne mal sur ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a une stratégie de communication au sein du réseau, de s'exprimer, d'aller... je ne sais pas, mais comment ça fonctionne, la communication ?
En fait, on fait appel à la presse locale, qui répond présent, d'ailleurs, aux médias locaux, je dirais que ce soit les radios, les journaux, voire FR3, quand on organise une action. Donc ça arrive qu'on organise des actions sur Florac, sur Mende, devant la préfecture ou quand quelqu'un est convoqué. Et là, effectivement, la presse répond. Après, au niveau national, alors c'est pas tellement nous qui communiquons, mais il y a quand même des tas de membres du réseau qui communiquent. Il y a aussi une radio, Radio Paris Pluriel, qui fait des émissions avec le réseau, et on peut communiquer depuis n'importe quel département, on le fait par téléphone. Donc oui, RESF communique, RESF fait des communiqués de presse avec la CIMAD, le MRAP, la LDH, avec d'autres associations. il y a une communication effectivement au niveau national et au niveau local aussi.
Et le traitement du coup de cette communication ou de RESF par les médias, que vous en êtes content? Est-ce qu'il y aurait des choses à changer? Est-ce que, je sais pas, comment vous le ressentez?
Je dirais que localement, je trouve que les médias font vraiment leur travail, c'est-à-dire que transmettent effectivement ce qu'on a à dire, ce que des gens qui n'ont pas de titre de séjour peuvent avoir à dire aussi. Je dirais que localement, il n'y a pas de problème. Après, au niveau national, ce n'est pas si souvent que la presse parle de RESF. RESF peut avoir la parole.
Peut-être, moi, je trouve ça important de faire aussi des choses plus générales, comme là, cette interview, qui permettent en fait de dire le réseau existe et il est très simple à rejoindre. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous aimez cuisiner, vous pouvez rejoindre le réseau, ça peut être... c'est très facile en fait de s'inscrire, juste pour... de s'inscrire, pas au sens littéral de donner son nom, mais je veux dire d'entrer dans le réseau, de ressortir éventuellement, de revenir plus tard, c'est quand même... C'est pas une forme très fermée, ça permet vraiment beaucoup de liberté. Donc pouvoir en parler dans les médias, peut-être que ça c'est un truc qu'on pourrait changer un petit peu, c'est-à-dire que ce soit visible les activités du réseau, aussi bien localement que plus globalement.
Moi j'ai fait le tour de mes questions, si vous avez envie de vous exprimer sur un sujet, si je vous donne un peu de temps là, est-ce que vous aurez une idée?
Oui, c'est vrai que moi j'ai quand même envie d'insister sur le fait que ça se durcit. Quand on entend quand même un ministre dire qu'il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, oui, c'est un peu révoltant quand même. Voilà, il y a quand même de plus en plus de discours aussi de haine qui sont quand même quelque part fabriqués par les politiques et répercutés par certains médias, qui font qu'on peut un peu être inquiet et que, oui. Il y a besoin de gens qui se mobilisent et qui rejoignent le réseau.
C'est sûr, Patricia, on est tout à fait d'accord avec toi sur cette antenne. Je mettrai tous les contacts du réseau Éducation Sans Frontières sur notre site dans un instant. Merci beaucoup à toi, Léo. C'est la fin de cette matinale. Ici, du coup, on écoute À quoi ça sert de Cordes Sensibles. Merci pour le cadeau, Léo. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Reste bien à la fraîche sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À lundi, ciao.
L'hôtel au moins, ça donne un lit. Moi, c'est l'école et le métier. Je suis venu pour ça, pour travailler, taffer comme disent mes copains. Eh bien, j'ai fait mon taf, serré les dents, cherché le patron et puis maintenant, galère encore, ça tombe par terre. Un coup c'est le contrat, un coup c'est les papiers. Le préfet dit non, non, pas le droit de travailler. Non, non et non. Pourquoi, pourquoi c'est non catégorique, je ne comprends pas. J'ai fait mon taf, le patron est content. Pourquoi c'est non, je ne comprends pas. Je suis sérieux, j'ai fait des heures. Pourquoi c'est non, je ne comprends pas. J'apprends le métier, c'est du bonheur. Un vrai kiff d'être toujours de bonne humeur. Pourquoi c'est non, je ne comprends pas. Je suis venu pour ça, taffer, aider ma mère, lui envoyer quand c'est possible un peu d'argent. Et la fierté d'avoir un fils honnête, débrouillard qui a étudié et qui va de l'avant. Ça sert toutes ces galères, cette peur au ventre, la faim, la misère, ces freins qui nous poussent au doute. J'ai vu ici, j'ai des amis, des frères, des sœurs, des voisins solidaires. Un monde sans nous, y a pas d'avenir. Un monde sans tous, ce n'est pas possible. Oh non, ce n'est pas possible. À quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça sert, sert. Toutes ces galères. Toutes ces galères.
pépère. Ouais, je fais partie de ces jeunes qui manquent pas d'air. À quoi ça sert toutes ces galères? Oublier mon innocence, me laisser chez père. Oui, comme vous, je voudrais bien la maison de pépère. Ouais, je fais partie de ces jeunes qui manquent pas d'air.